vrai.
Oh mais non, c'est faux.
Évidemment que c'est vrai.
C'est faux, c'est vrai. C'est faux et c'est pure calomnie.
Ah, c'est pas faux.
Est-ce que c'est vrai qu'Einstein était nul en maths ?
Nul en maths ? Einstein ? En voilà une bonne. Il est pourtant souvent cité comme l'un des scientifiques les plus influents du XXe siècle. Ses travaux aident encore aujourd'hui les astronomes dans certaines études. Alors Einstein, nul en maths, ça m'étonnerait.
Voyons ça.
Vous avez tous et toutes entendu son nom. Albert Einstein, le papa de l'équation E égale mc carré. Il est également connu pour sa théorie de la relativité générale qui explique globalement les phénomènes de gravité. Ou peut-être le connaissez-vous pour l'effet photoélectrique qui explique le comportement des électrons dans certaines circonstances. C'est d'ailleurs grâce à ses travaux-ci qu'il a pu obtenir un prix Nobel de physique en 1921.
Il est très fort.
Si on fait un petit tour de sa vie, Einstein est né en 1879 à Ulm, en Allemagne. Si vous allez y faire un tour, vous pourrez voir la petite plaque commémorative à l'endroit où se trouvait sa maison, qui a entre-temps été détruite durant la Seconde Guerre mondiale. Enfant, Albert découvre deux merveilles, comme il les appelle dans ses mémoires. Deux choses qui ont profondément marqué ses premières années. La première merveille, il la rencontre à l'âge de 5 ans. Il s'agit d'une boussole, objet mystérieux qui bouge grâce à des forces invisibles, ce qui l'a bien sûr fasciné pour le restant de sa vie. La deuxième merveille est arrivée quand il avait 12 ans. Il a découvert un livre de géométrie qu'il vénérait. D'ailleurs, il le désignait sous le nom de son saint livre de géométrie. Le jeune Albert se passionne pour les mathématiques et la physique, et contrairement à ce qu'on pense justement, il excellait en physique et en mathématiques.
Ah bon ? Tu crois ?
Mais oui, il pensait d'ailleurs que ses professeurs bridaient ses capacités, donc il a tout simplement demandé à ses parents de lui acheter des livres d'algèbre et de géométrie d'un niveau plus élevé pour prendre de l'avance sur le programme scolaire. Maths et physique étant tout de même très liés, le contraire aurait été étonnant. Mais ceci dit, il est décrit comme étant un élève médiocre dans les autres matières. En plus de ça, à 16 ans, c'en est trop pour lui, il se rebelle contre l'autorité de certains de ses professeurs et abandonne l'école, tout simplement. Mais bon, rassurez-vous, il ne devient pas un cancre pour autant. Parce que juste après, il tente l'examen d'entrée à l'école polytechnique fédérale de Zurich, en Suisse. Comme je vous l'ai dit, ses notes en physique et en maths sont excellentes, mais à cause de ses résultats médiocres dans les autres matières... Bon d'accord, il échoue à cet examen. Mais il en veut Einstein, alors il suit des cours supplémentaires pour combler ses lacunes. Grâce à ses efforts, il intègre l'école polytechnique fédérale suisse en 1896 et il obtient son diplôme d'enseignant de physique et de mathématiques en 1901. Malheureusement, il ne trouve pas de poste. Décidément, on dirait bien que personne ne voulait d'Einstein à cette époque. Ceci dit, vu le succès qu'on lui connaît aujourd'hui, on peut dire qu'il a bien pris sa revanche. En tous les cas, il commence à travailler dans un bureau de brevets à Berne en 1901. Et c'est là qu'il développe, entre deux analyses de demandes de brevets, ses travaux sur la relativité et autres domaines de la physique qui l'ont ensuite rendu célèbre.
Faut prendre le temps.
C'est sûr, il cumulait son travail et ses recherches personnelles. Bon, c'est bon du coup, on est d'accord sur le fait qu'Albert Einstein était excellent en physique et en mathématiques ? On peut utiliser la physique sans avoir recours aux maths, c'est vrai, mais on est quand même assez vite limité. On ne sait pas trop d'où vient l'idée selon laquelle il aurait été mauvais en mathématiques. Certains suggèrent que c'est tout simplement parce qu'il avait tendance à louper ses cours de maths, parce qu'il jugeait qu'il n'avait rien de nouveau à y apprendre. En fait, d'après ces mêmes personnes, il était tellement bon qu'il excellait aux examens sans même assister aux cours. Alors ceci dit, plus tard dans sa vie, Einstein a dû demander de l'aide à ses confrères mathématiciens pour corriger ses calculs. Mais bon, vous vous doutez bien qu'ici, on ne parle évidemment pas d'une équation de base ou de table de multiplication, mais de problèmes mathématiques très complexes.
C'est vraiment difficile.
Bon allez, passons à quelques faits marquants de sa carrière maintenant. Einstein est resté en Allemagne jusqu'en 1933, date à laquelle le tristement célèbre dictateur Adolf Hitler a pris le pouvoir. Einstein renonce alors à sa citoyenneté allemande et part vivre aux États-Unis où il devient professeur de physique théorique à Princeton, une des plus célèbres universités américaines. Il obtient la nationalité américaine en 1940 et prend sa retraite 5 ans après. Enfin, sa retraite de prof parce qu'il restera actif dans la communauté des physiciens jusqu'à la fin de sa vie. Il écrit d'ailleurs une lettre au président Roosevelt en 1939 pour l'avertir que l'uranium pourrait être utilisé pour une bombe atomique. Enfin, dans ces dernières années, Einstein s'engage dans une série de débats privés avec le physicien Niels Bohr sur la validité de la théorie quantique. Les théories de Bohr ont tenu la route et Einstein a par la suite intégré la théorie quantique dans ses propres calculs.
C'est une certitude mathématique.
Tiens, et au fait, vous saviez que le cerveau d'Einstein a été volé après sa mort ? Et oui, il avait pourtant donné des instructions très claires sur sa fin de vie en écrivant « Je veux être incinéré afin que personne ne puisse idolâtrer mes ossements ». Mais c'était sans compter sur le docteur Thomas Harvey, le médecin qui est chargé de l'autopsie ce jour-là et qui n'est pas vraiment intéressé par les os, mais plutôt par son cerveau. Il le découpe en 240 petits morceaux qu'il conserve dans des bocaux de mayonnaise remplis de formaldéhyde pour le conserver, et il l'observe sous toutes ses coutures pour tenter de trouver le siège de l'intelligence du physicien. Sauf que non seulement la famille d'Einstein apprend ce vol dans un article de presse à ce sujet, mais en plus le médecin n'a pas les connaissances suffisantes et la science n'est pas assez avancée pour différencier le cerveau du génie et le cerveau du commun des mortels. Autrement dit, son vol n'a servi à rien.
Et après ?
Eh ben, par la suite, pendant plus de 20 ans, on oublie un peu cette affaire de vol de cerveau. Aucune publication scientifique à son propos ne paraît et la disparition de l'organe ne semble alerter personne. Harvey perd son poste à Princeton et emporte ses carnets de notes, ses effets personnels et ses bocaux en verre dans ses valises. Il disparaît des radars et c'est en 1978 qu'un jeune journaliste du nom de Stephen Levy est missionné par son rédacteur en chef du New Jersey Monthly pour retrouver le cerveau d'Einstein. Une bien curieuse requête. Mais après une longue enquête, il met la main sur Harvey dans le Kansas et avec lui les fameux bocaux en verre rangés dans un carton dans son bureau. Et oui, depuis tout ce temps, il les avait encore. Il en envoie une partie à Marianne Diamond, une jeune chercheuse qui mènera la première vraie étude sur le cerveau d'Einstein. Si vous voulez en apprendre plus sur elle, on lui a consacré d'ailleurs tout un épisode de Chasseurs de sciences. Et c'est en 1998 que Thomas Harvey rend finalement les derniers fragments du cerveau d'Einstein qu'il possède à Elliot Cross, son successeur au poste de pathologiste à Princeton. Bah oui, fini de jouer avec les bouts de cerveau comme ça tout seul, faut partager. Allez, qui s'y colle ?
Vous êtes bien gentil, mais j'ai deux, trois bricoles à faire.
Et vous, vous avez d'autres idées reçues à débunker ? Envoyez-les nous sur les apodios ou en vocal sur Instagram et nous les inclurons dans de futurs épisodes. Pensez à vous abonner à Science ou Fiction et à nos autres podcasts pour ne plus manquer un seul épisode. Et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et une note pour nous dire ce que vous en pensez et soutenir notre travail. À bientôt !